Bonjour à tous. Déjà, merci à vous d'être vous êtes réveillés par ce temps un petit peu froid matinal. J'espère que tout le monde va bien. Nous, on a bien commencé notre journée. On a commencé par gratter le pare-brise de la voiture pour se mettre en forme. Donc, on est prêt à essayer de vous expliquer qu'est-ce que peut-être une autre vision de la CTI pour Airbus, une autre façon de l'utiliser chez nous. Donc, avec moi, Nicolas Loriot. Avec moi, je vais avoir Grégory Baudot, qui est responsable technique des activités CTI chez nous, Cyber Threat Intelligence, et Nicolas Audio, responsable de mise en œuvre de stratégies de détection chez nos clients. Et on va essayer de partager un petit peu avec vous comment est-ce qu'on fait pour avoir une autre vision de la CTI chez Airbus.
Bonjour tout le monde. Alors, j'ai déjà expliqué un peu le plan d'implémentation. On va d'abord voir les différents concepts de la CTI. Pour qu'on se mette d'accord, il y a différentes façons de voir la CTI. Il y a la cybersurveillance, c'est-à-dire prendre un peu le côté de celui qui est attaqué, essayer de comprendre quelle est son exposition, qu'est-ce qu'il a leaké, le prévenir. Donc ça, c'est la partie cybersurveillance, on ne va pas en parler ce matin, de notre part. On va plutôt s'intéresser à une autre partie de la threat intelligence qui consiste à comprendre quel est l'attaquant. On va essayer de modéliser, de comprendre. Donc pour ça, on va donc expliquer qu'est-ce que la CTI pour nous. Ensuite, on va essayer de traduire ces informations pour les fournir à différentes personnes au sein de la cyberdéfense, et cela pour la protection des données, la protection des utilisateurs. Donc là, on va utiliser différents exemples qui vont pouvoir s'appliquer en fait à différents utilisateurs. Et on finira par une conclusion. Donc un service de CTI, comment ça fonctionne? Grosso modo, c'est comme tout service de renseignement. C'est-à-dire qu'au départ, ce qu'il faut, c'est collecter de la donnée, récupérer des informations. Donc on va récupérer des informations qui peuvent être techniques, ce qu'on appelle des data, et puis on va récupérer des informations qui sont plus d'ordre contextuel, qui correspondent en fait à l'environnement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces moments-là dans le monde réel. Ces différentes informations qu'on va récupérer, on va les travailler, on va les vérifier, on va déterminer leur pertinence, on va essayer de définir quelle est leur utilisation possible. On va essayer de remonter là-dessus. Donc on utilise en fait différents enrichissements, on va interroger des bases de données à l'extérieur pour essayer de déterminer au niveau technique si cette information est viable ou pas. Une fois qu'on a récupéré toutes ces informations, qu'on a réussi un petit peu à qualifier, déterminer si ces informations sont justes, sont utilisables, on va avoir déjà une vision assez intéressante de l'attaquant. On va essayer de le modéliser, donc de déterminer quel est son profil, aussi bien au niveau technique, au niveau de ses motivations, de ses usages. Et on va pouvoir, avec les informations techniques, essayer de faire du hunting. Du hunting, c'est quoi? C'est partir à la chasse. Partir à la chasse des fichiers malveillants, donc en utilisant par exemple Virus Total, ou partir à la chasse de leurs infrastructures réseau qu'ils utilisent. Tout ça, on va essayer de le lier. C'est un des mots très importants au niveau de la threat intelligence, c'est de lier les informations entre elles. C'est-à-dire que les informations techniques, les lier avec la modélisation de l'acteur de la menace, et les lier avec les informations contextuelles pour savoir qu'est-ce qui a pu se passer au niveau géopolitique, au niveau de l'entreprise, pourquoi elle s'est fait attaquer, quels étaient les intérêts. Tout ça, on le met dans une base de données. Et on essaye, on fournit ces informations à différentes personnes, donc de la cyberdéfense, et ces personnes-là, donc elles utilisent ces informations et puis elles nous font des feedbacks. En termes de sources d'informations, ça va être des sources d'informations qui sont de sources ouvertes, souvent, mais ça va être aussi des sources d'informations qui sont plutôt fermées, qui seront des contacts qu'on a avec des boîtes d'antivirus, ça va être des contacts avec des chercheurs, des personnes qui font de la recherche sur les malwares, sur des groupes d'attaquants. Je vous ai parlé de la modélisation. Alors c'est une donnée qui est c'est quelque chose de fondamental, de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de voir. Donc c'est pour ça que j'ai repris en fait un slide de la présentation, du papier, pour essayer de vous expliquer un petit peu comment on modélise. Il y a plusieurs modèles qui existent déjà dans la nature, qui sont standardisés. Classiquement, il y a STIX, qui est assez utilisé actuellement. Pour besoin de la présentation, j'ai préféré ne pas présenter Styx parce que c'est un petit peu compliqué, ça va être un petit peu long. Donc j'ai fait un modèle un peu plus simple. Ce qu'on remarque dans ce modèle, c'est que déjà il y a l'information technique. Donc c'est la partie que j'ai mis en bas, avec ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. C'est les différentes marques, les différentes choses que l'attaquant a laissées quand il a attaqué. Les indicateurs de compromission, pour nous, c'est quoi? C'est différents marqueurs qu'on lit de manière booléenne. C'est-à-dire que ça va être des informations au réseau, des informations liées à l'infection sur la machine, des informations liées aux différents fichiers qu'il a utilisés, ça va être des certificats. Et on va récupérer, donc c'est dans ces différents types d'informations, des metadata, et on va, par rapport à leur pertinence, par rapport à la pertinence de la metadata, on va les lier entre elles. Donc ça va permettre d'augmenter encore le niveau de pertinence de l'information. Donc tout ça est bien sûr basé sur les enrichissements, c'est pour ça que c'est lié. Ensuite, on a la partie haute, qui est plutôt la représentation par rapport au profil de la menace. Alors le profil de la menace, c'est assez compliqué comme ça à expliquer, parce que ça a pour but d'essayer de répondre à des questions assez simples, qui sont pourquoi il attaque, qui attaque, comment, quel est son process, son modus operandi. Et donc on essaie de relier toutes ces informations. Donc là dans le schéma, répondre à la question qui, ça va être le threat actor. Le threat actor, il va être d'un certain type. Ça peut être un trojan bancaire, ça peut être un threat actor de type APT, ça peut être un threat actor plutôt opportuniste de type ransomware. Enfin bon, on va essayer un peu de standardiser l'acteur. Ensuite, il va avoir une motivation. Ils ont tout le temps un intérêt. Ça peut être un intérêt financier, ça peut être un intérêt de coercition, ça peut être un intérêt de sabotage. Enfin, c'est assez variable. Et puis, on va essayer de analyser sa ressource. La ressource, c'est quoi? Son niveau de ressource, c'est quelles sont ses capacités. L'attaquant, il va utiliser différents outils, il va avoir des capacités de développement, et tout ça, ça a un coût. Donc typiquement, un groupe d'attaquants APT, bien souvent, a plusieurs développeurs, a une capacité à créer de nouvelles choses, de rechercher des 0D, rechercher des exploits, et ça, ça a un coût. C'est un coût très important. On va essayer de donner un niveau à l'attaquant. Ensuite, l'attaquant il va réaliser des campagnes. Une campagne, c'est quoi? C'est une suite d'incidents. Donc, typiquement, quand on fait la détection, quand on recherche l'attaquant, quand on essaie de terminer son profil de ce qui s'est passé, on va détecter sa phase d'infection à un moment, on va détecter qu'il est en train d'extraire des fichiers, on va détecter qu'il a fait une évaluation de privilège. Tout ça, c'est des incidents qui sont des épiphénomènes en fait, sur les SI. Et tout ça correspond à un même but pendant un temps donné, et ça correspond à une campagne. Le fait de donner une segmentation comme celle-ci, ça permet de relier par rapport à la réalité du terrain et la réalité de l'attaquant, sa vision. Et ça permet aussi de définir en fait son évolution. Un attaquant, il va attaquer en 2011 d'une certaine façon. En 2015, ça sera d'une manière différente. Il aura des nouveaux outils, il aura évolué. Donc grâce à cette modélisation, on va pouvoir voir son évolution. Pour cela, pour voir en fait l'évolution, on utilise en fait des TTP. Donc les tactiques, techniques et procédures. Donc les tactiques, c'est sa manière de fonctionner, sa réflexion, quelles sont... comment il va intervenir, qui était la philosophie au départ. Ensuite, les techniques, c'est l'utilisation technique. Donc, par exemple, utiliser du waterrolling, c'est une technique. Et puis, la procédure, c'est comment il enchaîne ça. Quelle procédure il va suivre pour dérouler son attaque. Et tout cela, on le représente via une key chain, qui a déjà été expliquée dans une présentation précédente. Oups. Ce qu'on remarque dans ce schéma, c'est que donc les informations qui déterminent le profil, les informations techniques, elles sont légèrement séparées en termes de philosophie, de manière d'exploiter. Par contre, il faut les lier entre elles. Et donc, on se retrouve avec une colonne vertébrale, hein, qui est le threat actor, donc qui est à la tête, ce qui répond au qui. Le quand et le pourquoi est répondu par la campagne et l'incident. Et les informations techniques de détection sont répondues par les indicateurs de compromission. Donc, c'est une colonne vertébrale qui est très importante. Excusez-moi. Maintenant, on va voir. On a plein d'informations, en fait. On a énormément d'informations, et bien souvent, à cette intelligence, on pense uniquement indicateur de compromission dans ce domaine. Et c'est un peu dommage. Parce que nous, pour pouvoir réaliser notre travail, pour aller chercher de l'information supplémentaire en termes d'indicateur de compromission, en fait, on doit réaliser cette modélisation. Et bien souvent, elle n'est pas utilisée. Donc, le but de notre présentation, c'est de vous montrer comment on peut utiliser toutes ces informations. Donc pour cela, on va repartir en fait de comment fonctionne la cyberdéfense. Donc nous, on a modélisé en 4 niveaux la cyberdéfense, la manière de se protéger. Donc il y a un niveau stratégique qui correspond au board, à l'exécutif, c'est les personnes qui détiennent l'argent, les stratégies, les décisions. C'est les personnes à convaincre. Pourquoi modifier le SI? Pourquoi mettre de l'argent sur la sécurité? Quel est l'intérêt de se protéger? Ces personnes-là qui vont prendre la décision. Ensuite, on a la partie conception. La partie conception, c'est les personnes qui imaginent le SI. Ils vont imaginer le SI de demain. C'est des cycles qui sont plus longs. On pense qu'ils devraient être un peu plus courts grâce à la Threat Intelligence. Comme on apporte de l'information supplémentaire, on apporte une évolution plus rapide. On apporte en fait l'évolution de la menace et donc on incite à une évolution plus rapide des SI. Donc ça, c'est plutôt des architectes, ça va être des consultants. C'est des gens qui vont essayer de convaincre, de proposer des nouvelles solutions d'architecture. Ensuite, on a la partie tactique. La partie tactique, c'est la partie tactique de la défense. Tout à l'heure, on a vu la partie tactique de l'attaquant. Maintenant, on se place de l'autre côté, côté défense. La tactique, c'est quoi? La tactique, c'est se poser la question, comment on va réaliser la défense? On a la partie conception, comment détecter, quel outil on va mettre en place. Et de l'autre côté, une fois qu'on a mis l'outil en place, comment on réalise la supervision? Comment on la réfléchit? Est-ce qu'on va faire des dashboards? Est-ce qu'on va faire des alertes? Est-ce qu'on va faire de la corrélation? Est-ce qu'on va mettre d'autres outils, intégrer d'autres choses? C'est tout l'intérêt de la question de la tactique. Et ensuite, on a la partie opération. La partie opération, c'est la partie de tous les jours, en fait, en termes de sécurité. Pour les acteurs de la sécurité, c'est les SOC, donc les centres opérationnels de sécurité. C'est également les équipes, c'est CIRT, donc les équipes d'incident response. Ces personnes-là ont plutôt besoin d'informations techniques, et c'est le consommable bien souvent pensé en threat intelligence actuellement, c'est-à-dire les indicateurs de compromission. Donc là, je viens de finir la première partie, qui consistait à vous expliquer un peu comment fonctionnait la Threat Intelligence, comment les informations étaient liées entre elles, et vous ayez un peu une vue qui soit précise pour la présentation. Maintenant, on va commencer en fait les différents exemples. Et donc, on va partir du premier exemple, donc la chose la plus classique, les IOC. Les IOC, les règles de détection. Dans une équipe de Threat Intelligence, comme elle récupère plein d'informations en termes techniques, qui correspondent à un groupe d'attaquants. C'est une équipe qui a la capacité de fournir donc, différents indicateurs de compromission, différents marqueurs. Alors on peut les fournir en OpenIOC pour être détecté directement sur les équipements. On peut les fournir en termes de règles IRA pour détecter des fichiers. On peut fournir des règles IDS pour mettre sur les sondes de détection réseau. Nous, on pense que l'intérêt, fournir un format, c'est prémâcher le travail pour la personne qui va le consommer, mais c'est un peu limitant. Souvent, la personne qui va consommer, il va juste prendre le format, l'injecter et regarder ce que ça donne, et nous, on a plus d'informations à lui fournir. Et pour que lui, il utilise ces informations, il va falloir qu'il les traite. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt fournir nos informations sous un format CSV. On peut le fournir aussi dans d'autres formats, mais un CSV, c'est un temps très simple à traiter. On fait un petit script Python, on arrive à le remettre sous une autre forme, récupérer l'information qui nous intéresse et l'injecter dans tel ou tel outil. Les informations qu'on va avoir, par exemple des hash, on va essayer de les fournir sous les différents formats. Il y a des outils en termes de détection, en termes d'informations qui remontent au niveau du CIEM à MD5. Si on ne fournit que des MD5 et que l'outil par contre fournissait un SHA-1, bon ben la personne qui va faire la détection, elle va se retrouver un peu bloquée. Donc on va essayer de fournir de manière exhaustive, le plus exhaustive possible, les données. Maintenant, Nicolas, si je te donne toutes ces informations, comment toi tu les consommes ?
Merci beaucoup. Alors, moi, ouais, effectivement, équipe de défense, je vais récupérer ces packages de marqueurs, ces packages de règles, et du coup, premier travail que je vais effectuer, quel va-t-il être ? Je vais chercher, en fait, à analyser ces différents marqueurs. En premier lieu, je vais chercher à comprendre à quel type de marqueur j'ai affaire. Qu'est-ce qu'ils vont me permettre de détecter ? Est-ce qu'ils vont me permettre de détecter la boîte à outils de mon attaquant ? Est-ce qu'ils vont me permettre de détecter sa phase de communication ? Est-ce que ça va me permettre de détecter de l'exfiltration de données ? Ensuite, une fois que je vais avoir commencé ce travail d'analyse, ce travail de compréhension des types de marqueurs, de ce qu'ils vont me permettre d'identifier au sein de mon système d'information, je vais m'intéresser au type de capteurs dans lesquels je vais pouvoir les déployer. Donc ça va être des capteurs, classiquement, des sondes de détection d'intrusion réseau. Je vais aussi pouvoir utiliser ces marqueurs, par exemple, dans du backlog, dans mes logs de proxy, ainsi de suite. Donc je vais commencer à réfléchir sur ces thématiques. Ensuite, en fonction des phases d'attaque et des types de marqueurs que je vais avoir, je vais réfléchir au positionnement des capteurs au sein de l'architecture. Concrètement, à quel endroit dans mon système d'information je vais déployer ces marqueurs pour qu'ils soient utiles, pour qu'ils soient opérationnels. Donc je vais commencer par toute cette phase d'analyse, toute cette phase de compréhension des marqueurs que la CTI m'a fourni. Et une fois que je l'ai réussi, une fois que je l'ai réalisé, ben, on va passer à la phase de déploiement. On met en prod, on met en opération et on voit ce qui se passe. Et bien souvent, quel résultat qu'on a, c'est qu'on a l'impression de rien voir du tout. Donc on est là, on a déployé tous nos magnifiques marqueurs sur notre flux de thread qui nous a coûté de l'argent. On le déploie, on regarde, et puis on se dit, bon, bah, il n'y a rien. Et alors là, du coup, normalement, on va pouvoir se dire, super, quoi. Super bien protégé, j'ai déployé, je vois rien, il n'y a personne. Cet attaquant que je pensais être intéressant dans mon contexte, au final, je ne le détecte pas. Donc, première réaction, super cool. Bon, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est vraiment que je ne le vois pas ? Est-ce que je ne le vois pas parce qu'il n'est pas encore rentré dans mon système d'information ? Est-ce que je ne le vois pas parce que je n'ai pas les bons marqueurs ? Est-ce que je ne le vois pas parce que je n'ai pas déployé les bons marqueurs aux bons endroits ? Est-ce que je ne vois pas mon attaquant à l'intérieur de mon système, tout simplement parce que j'ai un angle mort à l'endroit où il est passé ? Mon périmètre de supervision n'est pas complet et mes opérateurs n'ont pas pu voir son passage. Je commençais à me poser ce genre de questions. Et à ce moment-ci, je me retournais vers ma cellule de thread et je me demandais, Greg, est-ce qu'on est vraiment bien, quoi ? Est-ce qu'il n'y a que ça à faire ? Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher plus loin ? Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire à ce moment-là ?
Alors Nico, c'est vrai, donc tu as vérifié les indicateurs de compromission, c'est notre connaissance que je t'ai fournie par rapport à cet attaquant précis. Et moi, je n'ai pas le savoir infini. L'attaquant, il bouge sans arrêt. J'ai beau le chasser. À des moments, ben, il me manque du lien. Il a tellement évolué que je n'ai pas trouvé sa nouveauté. Par contre, comme j'ai modélisé et comme j'ai essayé de comprendre en fait, comment il fonctionnait de manière générale, quel était son principe, j'ai fourni des informations qui se raccordent à ça. Donc, on va repartir un peu sur la kill chain. Donc là, si vous regardez, on a une représentation de la kill chain qui est de en haut à gauche jusqu'en bas à droite. Et je vais fournir en fait, différentes informations qui vont t'aider à comprendre un peu comment il fonctionne. Je vais te fournir aussi un rapport pour te raconter l'histoire de l'attaquant. Je vais vraiment te décrire de manière complète qu'est-ce qu'il a fait avant, comment il a fonctionné, pourquoi il avait fait ça. Enfin, bon, voilà, j'ai essayé de te raconter son histoire. Et Donc ces différentes informations qui sont détenues dans la key chain, en fait, ces informations elles vont être aussi bien un petit peu techniques comme des informations qui sont du terme du concept de l'attaquant. Donc maintenant, voilà, si je te donne toutes ces informations, toi, Nico, tu en penses quoi? Comment tu vas essayer de les traduire dans ton contexte?
Bon, alors du coup, je continue à regarder ça. Grégory, effectivement, il m'a donné des informations qui concernent la key chain. Premier truc qui saute aux yeux, c'est ce que les gens connaissent la plupart du temps, c'est on voit des numéros de CVE, bon, on va regarder ça. On va se dire, une CVE, c'est super cool. C'est intéressant, on sait que notre attaquant, il va les utiliser pour faire ses exploitations, ainsi de suite. Bon. On regarde ça. Et ensuite, en fait, on va lire le rapport et on va se rendre compte que notre attaquant, la plupart du temps, les vulnérabilités qu'il utilise, au moment où il les utilise, elles sont inconnues. Ce sont des vulnérabilités type 0D. Donc là, je continue sur ma réflexion et je me dis, ok, mais si en fait mon attaquant, tout d'un coup, il se met à utiliser une nouvelle vulnérabilité, il y a des chances, il est possible, il est probable qu'à ce moment-là, elle soit inconnue. Donc en fait, je suis en train de construire une ligne de défense qui ne va pas me permettre de détecter sa présence. Bon. Du coup, ce n'est pas forcément le bon axe. Alors je vais continuer à réfléchir, je vais continuer à regarder un petit peu. Et à quoi je vais m'intéresser d'autre? Je vais m'intéresser par exemple à la phase où mon attaquant il va chercher à se déplacer au sein de mon système d'information. Donc en fait, cet attaquant, je suis en train de prendre l'hypothèse qu'il est déjà à l'intérieur de mon système, et là je m'intéresse au moment où lui il va commencer à se déplacer, à chercher la donnée, à chercher les équipements, la donnée sensible au sein de mon système. Donc ça, ça va être des phases de reconnaissance interne, ça va être des phases d'élévation de privilèges, ça va être des phases de mouvements latéraux. Donc, je commence à m'intéresser à ça, et qu'est-ce que je regarde? C'est qu'en fait, de quoi je me rends compte? C'est que mon attaquant, là, il aime bien utiliser, par exemple, des petits outils, qui sont des outils d'administration standard. C'est pas du tout une boîte à outils que lui, il a déployée. Qu'est-ce qu'il fait, en fait? C'est qu'il arrive sur un système d'information, et généralement, il prend à son profit, il utilise à son profit, les outils d'administration qui sont posés là par les administrateurs. Bon, c'est un premier élément. Moi, je vois ça, je commence à réfléchir. Du coup, on était en train de dire, j'ai peut-être des angles morts, cherche à ouvrir mon champ de vision, à ouvrir mon périmètre de supervision, et j'ai ces éléments-ci. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Comment je peux détecter la présence de mon attaquant à l'intérieur de mon système à partir de ces éléments? Ben en fait, ces petits outils d'administration, TaskList, PSExec, etc., on est capable de tracer leur utilisation. Comment on va pouvoir faire ça? La plupart du temps, c'est en adaptant la politique de journalisation qu'on va avoir. De base, par défaut, l'exécution, l'utilisation, le lancement de ce genre de programme, de ce genre de commande, c'est pas tracé, c'est pas logué sur un système. Donc, moi, je vais commencer à aller voir mes administrateurs système, je vais leur dire, ben voilà, à cet endroit-ci, est-ce que tu pourrais pas modifier la conf du système? Est-ce que tu pourrais pas faire en sorte d'avoir un petit peu plus d'événements de journalisation qui vont remonter? Avoir ces événements de journalisation qui vont remonter supplémentaires, ça va me permettre ensuite d'aller voir mes opérateurs et de leur dire, bon bah maintenant, quand tu vois ce genre de choses, essaye un petit peu de partir à la chasse, c'est peut-être potentiellement une anomalie, essaye d'aller voir s'il n'y a pas un attaquant qui est là à un endroit du système. Par exemple, ça va pouvoir me permettre d'emmener mes opérateurs vers des procédures de hunting. Alors le petit exemple que j'ai mis ici, c'est l'Event ID 4688. En environnement Windows, par défaut, c'est un événement qui n'est pas logué. Par contre, c'est un événement qui permet de voir le lancement de programme. Donc ça, généralement, ça peut être assez intéressant. Par exemple, quand vous êtes dans du forensique, vous allez chercher ce genre d'informations. Donc, je vais commencer à changer le paramétrage de mon système d'information, je vais commencer à changer la politique de journalisation de mon système, justement, pour chercher à progressivement faire disparaître les angles morts au sein du système d'information. Progressivement, je vais chercher à ajouter de plus en plus, à augmenter le périmètre de vision, mes champs de vision, à réduire tous ces angles morts. Bon, tout ça c'est très bien, mais jusque-là ce qu'on faisait c'était uniquement de la détection. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, on commence à détecter notre attaquant, est-ce que, en plus de simplement le détecter, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à complexifier son travail? Est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à favoriser le défenseur? Est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à mettre nos défenseurs, à mettre notre blue team, notre équipe de défense, en avantage par rapport à la présence de l'attaquant à l'intérieur du système? Du coup, la question suivante, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la configuration, changer le terrain sur lequel je suis en train de me battre? Je vais me replonger un petit peu dans les données que Grégory m'a données. Je vais me replonger dans les rapports qui concernent le mode opératoire de mon attaquant. Je vais lire ce rapport et de quoi je vais me rendre compte. En premier lieu, je vais me rendre compte que mon attaquant, il a une boîte à outils qui est essentiellement orientée vers des environnements Windows. Il a un petit peu de Linux, il a un petit peu de Mac, mais la grande majorité de sa boîte à outils, elle est faite pour un environnement Windows. Ça me donne un premier élément. Et ensuite, ça va me donner un deuxième élément derrière, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse au plan d'opération, quand on s'intéresse au mode opératoire de l'attaquant, on se rend compte qu'il a un schéma qui est relativement simple. Ce schéma, quel est-il ? Il va commencer par compromettre un domaine Active Directory. Il va commencer par une intrusion initiale à l'intérieur de ce domaine Active Directory. Une fois qu'il est à l'intérieur de ce domaine, il va chercher à mettre la main sur les privilèges de niveau admin de domaine. Et une fois qu'il a ce niveau de privilège admin de domaine, alors il va commencer à exfiltrer la donnée. Concrètement, comment ça va se traduire ça sur un système d'information, sur mon système d'information ? Mon attaquant, il va rentrer à l'intérieur du système. Ça, c'est sûr. Garantie sur facture. Ça marchera à tous les coups. Il va rentrer à l'intérieur du système et... Il va rentrer à l'intérieur du système et à partir de ce premier endroit où il est rentré, il va se déplacer. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre la main sur les identifiants admin de domaine. À partir du moment où il a mis la main sur ce niveau de privilège, bah pour nous, la partie elle est perdue, le domaine, on peut le reconstruire, c'est fini. Bon. Et à ce moment-là, on va commencer un petit peu à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour reculer le moment où on en est à ce stade-là ? Et là, Microsoft, ils ont documenté quelque chose qui est très simple, c'est ce qu'on appelle le modèle de niveau. Le modèle de niveau, comment ça marche ? On part d'un domaine Active Directory classique, sauf qu'en fait, on va commencer à le segmenter d'une façon un petit peu particulière. On va commencer par le segmenter, par répartir les privilèges par niveau. On va commencer par une première couche, qui s'appelle tier 0 ici, qui va correspondre aux utilisateurs qui ont le niveau de privilège administrateur de domaine. Donc, root vraiment sur l'ensemble du domaine. Ensuite, on va descendre un petit peu. On passe au niveau administrateur des serveurs, administration des services. On continue à descendre et tout en bas, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver l'administration des utilisateurs, l'administration de l'ensemble de l'espace utilisateur. Comme ça, là, on est en train de commencer à répartir les droits, on est en train de commencer à segmenter les droits. Ce n'est pas la seule chose que préconise Microsoft. La deuxième chose qu'ils préconisent derrière, c'est en plus de commencer à compartimenter, de commencer à cloisonner le système d'information au niveau réseau. Donc là, au niveau réseau, vous commencez à segmenter votre SI pour les répartir par security zone. Vous allez faire une security zone, par exemple, pour vos ingénieurs, une security zone pour votre R&D, une security zone pour l'administration, tout ce qui est état-major, legal, les affaires financières, par exemple. Tout ça, pourquoi ça va être intéressant ? Parce que là, comme ça, petit à petit, vous faites apparaître des compartiments au sein de votre système d'information. Et pourquoi ? En ce qui concerne notre attaquant, ça devient extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, il va continuer à rentrer à l'intérieur du système. Ça arrivera toujours. Il continue à rentrer à l'intérieur du système, mais par contre, ce coup-ci, ce qui se passe, c'est que de base, par défaut, notre attaquant, il va se retrouver cloisonné, compartimenté, à l'intérieur d'une zone, en un unique endroit. Alors, je ne suis pas en train de dire, ça, c'est la solution à tous vos problèmes. Ce que je suis en train de dire, c'est, mon attaquant, de base, il va être à l'intérieur de cette zone, il pourra continuer à basculer d'une zone à l'autre. Pourra continuer aussi à chercher des élévations de privilèges. Par contre, le point, c'est que là, ça va lui demander beaucoup plus d'efforts, ça va lui demander des moyens supplémentaires, ça va lui demander une boîte à outils avec des compétences plus importantes. Et en plus, ce qui va se passer quand il va chercher à basculer, à sauter d'une zone à l'autre, c'est qu'il va faire beaucoup plus de bruit. Pourquoi ? Parce que ça va être des genres d'actions par défaut qui vont être complètement anormaux. Donc là, en fait, je viens de forcer mon attaquant à se révéler. Je viens de le forcer à faire des efforts supplémentaires. Bon. J'en suis là. Et à ce moment-ci, je m'arrête. Je suis en train de faire mon plan sur la comète. Mais travailler sur un Active Directory, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Donc à ce moment-ci, moi je vais me retourner. Et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Est-ce que j'y ai vraiment un intérêt ? Est-ce que pour moi, le jeu en vaut la chandelle ? Alors Grégory, à ce moment-là, est-ce que tu n'as pas plus d'éléments à nous apporter?
Alors Nico, je viens de nous expliquer une conception et le retour sur investissement, tu me poses la question, comment la stratégie agence peut t'aider à le définir. Et concrètement, moi en fait, je vais repartir sur les informations que j'ai en base de données et je vais essayer de voir en fait quelles sont les différentes menaces qui vont intervenir, quoi. Toutes les menaces en fait, je vais les regarder et je vais essayer de définir en fait ton niveau de sophistication que tu as mis en place et quelles sont les menaces en fait qui vont sur lesquelles tu vas être protégé ou sinon sur lesquelles tu vas avoir un impact. Donc si on représente le nombre de menaces par rapport à la sophistication, qu'on fait une petite courbe. Si elle apparaît. Voilà, une courbe toute simple. Et puis on essaie de placer maintenant les menaces. Donc au niveau de la sophistication, on voit que sur la partie de gauche, les ransomware, les banqueurs, les. Tout ce qui est botnet, quoi. Les menaces en fait assez standard, assez généralistes, elles ont un niveau de sophistication qui est plus ou moins important. Elles ont des techniques hein, qui sont intéressantes, mais elles ne sont pas évolutives. Elles ont une technicité, une sophistication quand même qui n'est pas extrêmement importante. Sur la partie de droite. On va plutôt regarder après les APT. Donc les APT, ils vont être plus sophistiqués, ils vont s'adapter. Certains groupes APT sont capables de s'adapter, d'autres un peu moins. Il y en a certains qui ont une capacité de développement, d'autres ils vont réutiliser des choses qui existent déjà, mais ils ont une utilisation qui est quand même assez fine. Si je place au niveau de sophistication de la conception que tu as fait, je placerai à peu près à ce niveau-là. Et donc c'est-à-dire que certains groupes d'APT, tu arriveras à les embêter, à les ennuyer, à même les empêcher en fait de pouvoir aller jusqu'au but, c'est-à-dire aller chercher ta donnée, aller chercher la donnée qui les intéresse. De balader dans le SI, certains groupes d'APT, ils n'ont pas de capacité de faire des aliasons de privilèges très complexes. Donc au final, ta conception, ça a permis de te protéger, de limiter les dégâts en fait sur une grande partie des attaques. Il restera toujours les groupes APT qui sont très sophistiqués, mais bon, comme tu l'as dit, tu vas leur obliger à faire du bruit. Donc ça va rajouter un avantage, c'est que tu auras des moyens de détection. Donc ce qu'il faut retenir en fait de cette analyse par rapport aux différentes menaces qui existent et par rapport à ta conception, c'est que tu as grandement réduit en fait le spectre d'attaquants qui vont pouvoir en fait. Aller jusqu'à ses objectifs, c'est-à-dire faire du sabotage, récupérer de la donnée confidentielle, récupérer tes ressources. Donc en fait, tu as grandement amélioré ta détection et ta sécurité. Là, on va arrêter les exemples. Et on va partir sur la conclusion et je vais donc donner la parole à Nicolas. Pour conclure.
Merci Grégory. Voilà, déjà ce qui est important dans la partie théorique que vient d'expliquer Grégory, c'est aussi que ça permet de couvrir plus d'une quarantaine de gros attaquants. C'est-à-dire le mouvement d'architecture qui était proposé par Nicolas, c'est pas juste encore une fois une demande d'argent qu'on vous demande pour faire encore un énième truc, c'est pas encore vos techniciens qui vous embêtent, c'est d'essayer de prouver que ça marche pour plusieurs groupes. Donc il y a un retour sur investissement. Alors, la première conclusion, c'est que c'est pas si simple que ça à utiliser, je vous promets. Donc, bon courage pour les suivants. Non, pour être plus sérieux, ce qui est important, c'est quelque chose qu'on partage tous, c'est pour bien protéger nos données, il faut savoir ce qu'on protège. Donc ça, c'est un fait. Si je ne sais pas ce que je veux protéger, j'ai peu de chances de bien le protéger. Mais ce qu'on a essayé de vous démontrer ici, c'est qu'il y a une étape suivante. C'est quand je sais ce que je veux protéger, il faut savoir contre quoi le protéger. Et contre quoi le protéger, justement, c'est la CTI qui va nous apporter des réponses à cette partie-là. Donc justement, les réponses, elles viennent de quoi? Elles viennent du fait que si je connais mieux mes adversaires, comment ils fonctionnent, comment ils marchent, je vais pouvoir faire des adaptations dans mon système pour pouvoir adapter à la fois ma construction, comme a présenté Nicolas juste au dernier exemple, mais aussi adapter mes postures de supervision au fil du temps. Donc on passe sur une posture un peu plus dynamique. C'est pas j'ai construit une fois et j'attends, c'est je regarde régulièrement comment est-ce que l'évolution de la menace peut me permettre de faire évoluer ma défense dans un profit toujours continu et du chat et la souris, si je puis dire. Et surtout, ces informations qui proviennent de la CTI, elles doivent arriver à différents niveaux et à différents acteurs. Donc on a commencé par l'exemple avec la partie opération, des simples marqueurs qu'on donne entre guillemets tous les jours, dans la vie de tous les jours, faire du backlog, du hunting ou des choses comme ça. Ça c'est une première chose, et finalement il faut le faire, mais c'est pas suffisant. Les parties tactiques, c'est ce qu'a essayé d'expliquer tout à l'heure Nicolas en disant est-ce que j'ai pas des logs à chercher en plus, est-ce que j'ai pas une sonde à mettre, est-ce que j'ai pas un paramétrage à faire évoluer pour essayer de lever les zones d'ombre. Donc là on va passer à des gens qui vont être plus sur maintenance du système de supervision, augmentation du périmètre, avec des coûts qui sont encore potentiellement relativement raisonnables. Le troisième point, c'est un point qui nous tient quand même pas mal à cœur et qui est, on pense aujourd'hui, pas assez suffisamment utilisé ou poussé, c'est la partie conception. Les architectes doivent recevoir des informations de la Threat Intel. Ils ont besoin de connaître l'évolution des menaces pour pouvoir adapter leur concept, leur building box, leur base de fonctionnement, pour dire ce que je faisais hier, ça marchait hier. S'il y a une évolution des attaquants qui font qu'il y a un nouveau mouvement, s'il y a un shift, un mouvement des attaquants, il faut que la défense aussi le prenne en compte. Et je vous engage solennellement à plus partager avec les architectes ou de mettre vos architectes en relation avec vos équipes de CTI, avec des rapports justement type Threat Actor, avec comment ça fonctionne. Et le dernier point, bah, on l'a évoqué parce qu'on a tous le même problème, c'est on a un problème d'argent, on est obligé de gérer au mieux notre capacité, et donc on a besoin de justifier tous nos investissements. Et dans le dernier exemple qu'a montré Grégory, c'est on essaie de montrer des fois quand il y a des changements à faire, des fois quand il y a des investissements à faire, qu'ils ont du sens pour couvrir plus que tiens, c'est encore une nouvelle boîte qu'il faut acheter ou un nouveau changement qu'il faut faire, mais ça va couvrir encore une fois que ce point-là, et là tu vas revenir la semaine prochaine avec une liste de 140 autres choses. Donc c'est un outil qui peut aussi vous servir au niveau stratégique pour aider à justifier vos dépenses s'il y a des mouvements à faire sur Active Directory. Voilà. La Threat Intel peut vous aider à vous appuyer l'argumentaire de vos décisions. Voilà, tout ça pour dire que on pense que la CTI, la Cyber Threat Intelligence, peut permettre d'améliorer votre défense au fil de l'eau, au niveau de tous les acteurs, et surtout, n'oubliez pas, vos architectes, vos concepteurs, ils font partie de la chaîne de défense, et la CTI est aussi fait pour eux et permet d'améliorer les choses grandement. Merci à vous.